qui nous propose des méditations. La première que nous avons partagée nous invitait à faire un parallèle entre les promesses reçues à notre baptême et le fait de se lever dans la journée en étant habité, investi par ces promesses-là, et de se lancer dans ce nouveau jour que Dieu fait avec la certitude que Dieu nous aime. Et il y a eu une concordance de choses, c'est qu'à l'étude biblique, on a travaillé sur ces textes du baptême de Jésus et de la tentation de Jésus. Et avec le conseil, on avait voulu que, après les groupes de maison, on puisse avoir un temps de prédication aussi sur le même thème un peu, pour que toute l'Église puisse profiter un peu de ce qu'on a partagé et peut-être aussi vous encourager à participer à ces groupes de maison ou en créer des nouveaux peut-être s'il y a besoin. Alors ce matin, je vous emmène dans l'évangile de Matthieu. On va lire au chapitre 3 et au chapitre 4 et enchaîner sur cet épisode du baptême de Jésus et de la tentation de Jésus et voir comment est-ce que ces choses-là peuvent aussi nous rejoindre dans notre vie quotidienne. Mais avant de lire la parole de Dieu, je vous encourage avec moi à prier. Voilà, nous nous plongeons dans ton histoire, Seigneur, telle que les témoins que tu as choisis, les apôtres, nous l'ont rapporté. Nous avons confiance dans ce témoignage, nous voulons lire ces écritures saintes afin qu'elles nous révèlent qui tu es. Et découvrant toujours mieux qui tu es, nous sachions toujours mieux qui nous sommes. Merci Seigneur de ton amour et de te révéler à nous. Amen. Donc on va lire le baptême de Jésus au chapitre 3, verset 13 et suivant. Et de dire, et c'est assez important, que ce baptême de Jésus, c'est la première chose, premier acte public. Première fois que Jésus sort un peu de l'anonymat, du giron de sa famille, et puis va volontairement à un grand rassemblement public et se fait connaître. Et à cette époque-là, personne ne le connaît. Mais Jean, lui, son cousin, le reconnaît. Verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant... C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, mais laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux avec ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours, 40 nuits, et puis, il eut faim, et le tentateur s'approcha de lui et lui dit ah, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte et le plaça en haut du temple. Il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « D'autre part, il est écrit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très haute et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et lui seul, et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors c'est un texte un petit peu étrange quand même. Autant l'épisode du baptême de Jésus, bon ok, ça va. Autant la rencontre entre Jésus et le diable, ça fait un peu étrange. Déjà, je ne sais pas si tout le monde ici serait convaincu de dire qu'il existe une entité, un être, une créature spirituelle consacrée au mal, révoltée contre Dieu et cherchant, dans une dimension invisible de ce monde qu'on ne connaît pas, à conduire les choses vers le mal. En tout cas, c'est une conviction chrétienne. Nous ne croyons pas que le mal, c'est l'accumulation des mauvaises pensées humaines. Nous croyons que, oui, l'accumulation des mauvaises pensées, des mauvaises actions humaines et des mauvais choix humains ont des conséquences dramatiques. On pense que derrière ça, il y a aussi un être, et il n'est pas tout seul d'ailleurs, des anges révoltés, qu'on appelle des démons, qui œuvrent dans ce monde-là. Alors à quoi il ressemble ce diable? Si on regarde les peintures, tantôt un serpent, tantôt un espèce de truc avec des pattes griffues, des écailles, des ailes de chauve-souris, tantôt un homme avec des ailes, mais il est sombre. Alors la Bible dit pas du tout à quoi il ressemble, et en fait je pense pas qu'il faut s'imaginer une créature physique. C'est un être invisible et spirituel. Donc s'il rencontre Jésus, c'est plus par des pensées et des paroles dans sa tête, dans son esprit, qu'autre chose. Alors Jésus est baptisé par Jean. Le livre qu'on a lu en groupe de maison pointe du doigt, et c'est passionnant à lire, Jésus n'a rien fait d'intéressant avant son baptême. Il n'a pas guéri des gens, il n'a pas annoncé de messages formidables, il n'a pas affronté des autorités politiques ou quoi que ce soit, ou religieuses, il n'a pas fait de miracle. C'est le gars, fils de charpentier, qui vient de Nazareth, un bled, vraiment un bled à l'époque, sans aucun renom. Et pourtant, que dit Dieu, son Père, quand il le voit arriver ? Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je prends tout mon plaisir. Alors déjà, ça nous interpelle parce que nous, on se dit, bon ben, voilà, quand est-ce qu'on dit à nos enfants, ah, je suis fier de toi ? Pour être intéressant, on devrait peut-être, voilà, le matin, le gamin il se lève, il arrive, tu sais, il se pose à la table du petit déjeuner, il lit le paquet de céréales là, qu'il a déjà lu trois fois parce que les trois matinées précédentes c'était le même paquet de céréales, mais il le lit quand même. Je suis fier de toi. Je trouve tout mon plaisir en toi. Il n'a rien fait, hein, c'est pas brossé les dents, rien, il est encore en pyjama. Je suis fier de toi. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Il va lever les yeux de son paquet de céréales. Hein ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais je ne pense pas qu'aucun d'entre vous ait vécu cette expérience. Moi-même, en tant que papa, je ne pense pas avoir dit à mes enfants le matin, je suis fier de toi. Et voilà, Jésus qui arrive en public, la première fois de sa vie, et qui va commencer son ministère de Messie, sauveur du monde. Donc il vient recevoir cette consécration, cette onction, d'accord, auprès de Jean-Baptiste qui est prêtre. Et Jean, au début, il se dit, ben non, c'est moi qui dois recevoir de toi, mais Jésus lui explique, à travers ce petit mot très mystérieux, Il faut que nous accomplissions toute justice. Je vous renvoie aux études bibliques pour expliquer le sens du baptême de Jésus comme une consécration à la prêtrise. Étant consacré, recevant l'onction, même une onction presque physique, puisqu'on voit littéralement l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, se placer sur lui. Jésus part en mission. Et il part en mission avec, sur lui, cette promesse de Dieu. Je t'aime et je suis fier de toi. Certains d'entre vous, peut-être, ont ressenti cet amour de Dieu à un moment dans votre vie, dans votre conversion, dans votre parcours spirituel. Mais avant que vous le ressentiez, avant que vous le viviez, il y a déjà une promesse de la part de Dieu qui vous a été donnée au baptême. Et cette promesse, c'est « Je t'aime et en toi je prends tout mon plaisir ». Et dans le livre que nous avons lu, nous sommes encouragés quand ça ne va pas, quand c'est difficile. Parce que des fois, la foi, on la ressent, des fois, on ressent le vide. Et quand on ressent le vide, à quoi on s'accroche? On s'accroche à cette promesse infaillible de Dieu, « Je t'aime et je suis fier de toi ». Et ce même esprit de Dieu qui vient donner, faire ressentir, cette expérience de l'amour de Dieu, c'est celui qui va conduire Jésus à aller dans le désert pour être mis à l'épreuve. Alors on l'a vu à l'étude biblique, Matthieu, l'auteur de cet évangile, il veut montrer que Christ c'est comme un nouvel Adam, que Christ c'est comme un nouveau Moïse, et il agence son récit comme ça. On voit que Jésus il naît, il doit fuir en Égypte. Et puis il revient d'Égypte, il passe par l'eau et il se retrouve dans le désert. Est-ce que vous connaissez une histoire comme ça? Où on quitte l'Égypte, on traverse l'eau et on se retrouve dans le désert. Quelqu'un? Oui, Elisa, tu m'as dit oui, vas-y. Tu connais pas cette histoire? Moi je la connais. C'est l'histoire du peuple juif, du peuple d'Israël. Moïse qui vient affronter le Pharaon et qui emmène le peuple hors d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte, tout ça, les 10 commandements. Et puis la mer s'ouvre en deux et le peuple traverse la mer et ils vont où? Dans le désert. Et ils vont rester 40 ans dans le désert, Jésus 40 jours. L'enchaînement est là pour nous montrer quoi? Que Jésus c'est ce nouvel Israël. Mais là où le peuple il arrive à la frontière du pays promis et dit « Dieu, voilà la promesse que je t'ai faite » et le peuple fait oh, « on ne va pas y arriver. En fait, tu nous as conduits jusqu'ici pour qu'on meure, c'est ça ?» Et ils ont douté de la promesse de Dieu et ils ne sont pas rentrés dans la promesse. Jésus est le nouvel Israël. Mais aussi, il y a un autre récit, une autre couche d'oignon dans ce récit qu'on peut lire. Et c'est quoi? C'est un homme qui reçoit l'amour et la vocation, la mission de Dieu. Et le diable qui vient lui faire douter de cet amour et de cette mission de Dieu. Est-ce que vous connaissez une autre histoire dans la Bible où un homme comme ça reçoit l'amour et la bénédiction de Dieu et une mission que le diable vient voir pour lui suggérer que peut-être Dieu n'est pas fiable? Non? Adam? Ouais. Adam reçoit une mission de Dieu, et Dieu lui donne sa bénédiction, dit que c'est très bien, qu'il est heureux de l'homme, il se réjouit de la création de l'humanité, et le diable vient semer le doute dans l'esprit des humains pour les détourner de leur vocation, n'est-ce pas? Et justement, intéressons-nous à ce que dit Satan. Satan s'approche de Jésus et qu'est-ce qu'il lui dit? Ce premier mot, si tu es le Fils de Dieu, qu'est-ce que ça sous-entend? Prouve-le, peut-être c'est faux, Peut-être c'est faux. Si tu es le Fils de Dieu. Et à côté de ça, voilà, sur quoi s'appuie-t-il ? Sur les circonstances de la vie de Jésus. Tu as faim. Regarde. Dieu t'aime, vraiment ? Tu es où ? Il te conduit là, dans le désert. Tu es tout seul. Tu as faim, tu as soif. Donc le diable essaye d'attirer le regard de Jésus sur les circonstances de sa vie. Regarde les circonstances que tu traverses. Tu trouves vraiment, dans les circonstances que tu traverses, la preuve de l'amour de Dieu pour toi. Change les circonstances, si tu es le Fils de Dieu. Change les circonstances. Et ne nous arrive-t-il pas de temps en temps de regarder à nos circonstances et de dire quand même, Seigneur, je me sens pas soutenu là, voire plus, voire tu m'as rejeté, tu m'as abandonné, tu t'acharnes sur moi. Alors, change ces pierres en pain que tu manges, quoi. Quelle est la réponse de Jésus ? Il cite Deutéronome chapitre 8. N'allez pas voir Deutéronome 8, je vous le lis. Deutéronome 8, donc, ce peuple traverse la mer Rouge, il va jusqu'au mont Sinaï, il reçoit les 10 commandements, il passe alliance avec Dieu, et ensuite Dieu l'amène à la frontière du pays promis, il dit voilà, c'est là, vas-y, je t'offre ce pays, rentre, par la foi tu vas le conquérir, et puis là le peuple dit ah non, non, on est foutu, c'est pour nous faire mourir et tout ça, et il dit bon, on retourne en Égypte, finalement l'esclavage c'était mieux. Et là, Dieu rentre en colère et finalement le peuple ne rentrera pas dans le pays promis, il va tourner en rond un peu 40 ans dans ce désert. Et au bout de 40 ans, où tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts, et c'est la nouvelle génération qui vient, Dieu les ramène à la frontière du pays promis, dit bon maintenant, on y retourne. Et là, avant d'y retourner, il repasse une alliance. Cette deuxième alliance, c'est le Deutéronome, ce livre-là. Et donc voilà ce que dit Dieu, Moïse, de la part de Dieu, au chapitre 8. Vous observerez et vous mettrez en pratique les commandements que je vous donne aujourd'hui. Comme ça, vous vivrez longtemps et vous vous multiplierez dans le pays dont vous allez entrer en possession, que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Tu te souviendras tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'apprendre l'humilité, d'éprouver et de reconnaître ce qu'il y a dans ton cœur. Tu observeras ces commandements. Et si tu observerais ces commandements, pardon, oui ou non ? Il t'a humilié, il t'a fait souffrir dans la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et c'est ça que Jésus cite. Alors là, les super spiritualistes disent « Ah d'accord, donc en fait, pour vivre, on a besoin que de la parole de Dieu. » Voilà, donc que de la parole de Dieu. Non, ce n'est pas du tout ce que Jésus dit. Ni ce que l'Éternel a dit dans le Deutéronome, il dit « Pas de pain seulement. » Pas de pain seulement. Donc, le pain aussi. Mais si ma vie se résume à du pain, à manger, boire et dormir, ma vie est aussi profonde que celle d'une fourmi, ou d'un oiseau, ou d'un rat. Or, la vie humaine a besoin de plus que de manger, boire et dormir. Elle a besoin d'un sens. Elle a besoin d'avoir sa place dans l'existence, dans l'ordre des choses, dans une société, dans une communauté. Nous avons besoin de nous sentir libres, de nous déterminer. Nous avons besoin de compter pour des gens et que des gens comptent pour nous. Nous avons besoin d'être créatifs, d'apporter quelque chose, de participer à la production de l'abondance de la vie, de la communauté. Et sans ces choses, nous nous sentons esclaves. Nous nous sentons moins qu'humains. Donc oui, L'homme a besoin de plus que de boire et de manger. Et où est-ce qu'il va trouver ce plus? Alors quand on n'a pas Dieu, on le cherche où on peut. Et quand on connaît l'Éternel, on écoute ce qu'il nous dit, ce qu'il dit que nous sommes. Et dans cela, nous trouvons le sens de la vie. Et c'est ce que Jésus dit. Quand le diable dit « Mais change tes circonstances, change ces pierres en pain », l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Il faut que j'avance, il est déjà moins 10. Le diable ensuite l'emmène. Alors, quand il l'emmène comme ça, ce n'est pas physiquement, hein, c'est une vision en esprit, en haut du temple. Même stratégie, si tu es le fils de Dieu, si vraiment Dieu t'aime, alors Dieu il t'aime vraiment? Ok, on fait un test alors. On fait un test. Ce qu'il a dit, et là le diable est malin, il cite les Écritures, il a dit, il donnera des ordres à ses anges, à ses messagers pour qu'ils te portent sur leurs mains pour pas que ton pied heurte la pierre. Donc si vraiment Dieu t'aime et que là tu te jettes du temple, bon, il va le faire. D'accord? J'avais dit à l'étude biblique, c'est, voilà, imaginez un copain, une copine qui vient voir une épouse et dit, mais tu l'as le code de ton portable, du portable de ton mari? T'as déjà vérifié si ces messages? Non, parce que si vraiment il t'aime et que tu regardes, il n'y aura rien. Oui, mais en faisant ça, tu as déjà semé le doute. Et en fait, si je prends le portable de ma femme pour regarder les messages, j'ai déjà admis dans mon cœur qu'il est possible qu'elle me trompe. Et je cherche à avoir une réponse. Donc ce n'est pas un acte de confiance. Ce n'est pas un acte de confiance. C'est aller vers le doute. Et Jésus répond à Satan qui dort les Écritures, hein, bien sûr, par une autre parole de l'Écriture. Il est dit, tu ne mettras pas ton Dieu à l'épreuve. Hein? Imaginez un mari qui met son épouse en situation avec de le tromper pour vérifier quelque chose. C'est pas de la confiance. C'est pas de la confiance, justement. Donc toujours le diable qui essaye quoi, de saper cette parole de Dieu. Tu es mon fils bien-aimé en qui je prends tout mon plaisir. Il essaye de la détruire, de la fragiliser, de créer peut-être une hypothèse dans l'esprit de Jésus que peut-être que ce n'est pas vrai. Peut-être que ce n'est pas aussi vrai que ce que tu crois. Et la troisième stratégie, il l'emporte en haut d'une montagne, donc pareil, c'est en esprit, il lui fait voir tous les royaumes du monde d'un coup. Il dit, bon voilà, ton père il t'envoie sur terre, pourquoi? Pour que tu deviennes le roi des rois? Mais écoute, moi je te propose la même chose, mais sans passer par là, sans la souffrance. Sans la confrontation, sans le combat, sans la douleur, sans l'humiliation. Et là, la réaction de Jésus n'est pas la même. Là, il s'énerve. Retire-toi de moi. Va-t'en. Non, je ne serai pas un roi de ce monde comme tous les rois avant moi. Non, je ne serai pas un roi qui se fait servir. Non, je ne serai pas un roi qui utilise la puissance, le pouvoir pour manipuler, pour s'imposer, pour dominer. Je serai un roi selon le cœur de Dieu. Et un roi selon le cœur de Dieu, c'est un roi qui se donne, qui sert, qui offre sa vie pour sauver celle de son peuple. Vous savez qu'il y a un autre endroit dans la Bible où Jésus dit « Arrière de moi, Satan ». À qui? à Pierre. À Pierre. Jésus qui rassemble ses disciples, bon, c'est quoi la revue de presse aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Disciples, ok, bah alors, le monde dit que non. Mais on dit que t'es Jean-Baptiste, on dit que t'es un prophète, on dit que t'es là. Et vous, vous pensez quoi de moi? Et à Pierre, moi? Tu es le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Il a tout bon hein, sur sa copie là. Il a tout bon, Pierre. Mais est-ce qu'il a compris? Il a les bons mots, mais est-ce qu'il a compris? Parce que juste après, Jésus leur dit, voilà, en fait, il faut qu'on aille à Jérusalem, et là, je vais être livré aux autorités romaines, étrangères, et ils vont me maltraiter jusqu'à me mettre à mort. Mais rassurez-vous, je vais ressusciter le troisième jour. Et Pierre prend Jésus à part et lui dit, écoute, non. Non, non. Tu es le Messie. Donc, le Messie ne meurt pas. Tu vois, le Messie, il arrive et il jarte les Romains en dehors de la Palestine, et nous, on devient la nation qui va guider le monde vers la lumière, et toi, tu seras le leader suprême de cette nation. Et donc, non, tu ne meurs pas. Et Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan. Parce que pour Jésus, c'est la même tentation, la même proposition. Tu prends le pouvoir, tu imposes aux autres ta volonté et tu crées un royaume par la force. Non, il ne sera pas un roi comme cela. Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Je dois conclure parce que j'ai eu peu de temps. Nous aimons plutôt avoir des compliments quand on a le sentiment de les mériter. Mais même quand on a le sentiment de mériter les compliments, nous autres chrétiens, nous avons l'art et la culture de la fausse humilité. C'est pas moi, c'est le Seigneur. Et on trouve des esquives par rapport aux compliments. Mais alors, recevoir des éloges, recevoir des marques d'amour, sans le moindre mérite, avant toute autre chose, ça, c'est encore plus difficile à accepter. Pourtant, c'est vraiment dans cette perspective que le Seigneur nous encourage à vivre. C'est parce que je t'aime que je t'appelle à vivre comme mon enfant. C'est parce que je suis fier de toi et que je compte sur toi et que je ne me lasserai pas de toi, que je t'encourage à recommencer encore et encore, à vivre par la foi, à marcher sur les traces de Jésus. Et vous aurez cette voix qui viendra vous dire, vraiment, t'es une fille de Dieu, t'es un fils de Dieu, vraiment, tu prétends être chrétien, moi je t'observe et je vois, regarde ta vie, regarde ta consécration, regarde le sérieux avec lequel tu lis la Bible, tu pries, regarde ton attitude. Dis-moi franchement qu'il n'y a pas des matins, ça te coûte de venir au culte. Et vous la connaissez cette voix. Et qu'est-ce qu'elle vient dire? Elle vient jeter le doute sur si tu es le fils de Dieu, si tu es l'enfant de Dieu. Exactement comme Satan a cherché à le faire avec le Christ. Est-ce qu'il s'est laissé faire? Non, parce qu'il s'est accroché et qu'il a gardé intact au cœur cette parole « Tu es mon fils et je t'aime d'un amour inconditionnel. » Vous tous qui avez été baptisés, quelle que soit la façon dont vous vivez vos circonstances aujourd'hui, quel que soit le sentiment, le ressenti, l'expérience intérieure que vous avez dans vos tripes de la présence de Dieu, forte ou le vide sidéral, vous avez reçu l'eau du baptême et cette eau est associée à une promesse. Tu es mon enfant, tu fais toute ma joie et jamais je ne me lasserai de toi. Ne laissez jamais le diable venir saper cette parole que Dieu vous a donnée et qu'il ne reprendra jamais. Jamais. Et alors, vous vivrez par la foi. Amen.